France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dominique Bernard était bien sa cible depuis le début. L'assaillant de l'attentat d'Arras affirme devant la juge qu'il a visé intentionnellement le professeur de français cet automne pour les valeurs qu'il incarnait, la démocratie, les droits de l'homme. Précision dans ce journal. Mais quand s'arrêtera l'hécatombe dans le prêt-à-porter ? C'est au tour de la marque IKKS d'être en sérieuse difficulté. Encore une fois, le milieu de gamme, vous l'entendrez, est plus particulièrement touché. Dans ce journal aussi, ces crispations croissantes entre le RN et l'AFD, son allié allemand au Parlement européen. Et en Égypte, tollé autour de la rénovation des pyramides.
Et avec Sonia De Villers à 7h50, le député LFI NUP de la Somme, François Ruffin, son nouveau livre « Mal travail, le choix des élites » paraît demain aux éditions des Liens qui libèrent.
France Inter.
Il avait gardé le silence en garde à vue juste après l'attaque.
Mais une fois devant la juge d'instruction, en novembre, puis en janvier, Mohamed Moghouchkov s'est mis à parler. Il est revenu longuement sur son attentat du 13 octobre dernier, l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard devant son lycée d'Arras. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour.
Vous avez eu accès à ces déclarations glaçantes. L'homme de 21 ans affirme qu'il visait donc intentionnellement son ancien professeur.
Oui, Dominique Bernard, c'était la première cible, la tâche principale, selon les mots de Mohamed Moghouchkov. Ce qu'on comprend à la lecture de ce long interrogatoire du 10 novembre, c'est que ce n'est pas l'homme, Dominique Bernard, après qui l'assaillant en avait. Je n'avais pas de problème particulier avec lui, dit-il, mais son métier, professeur de français, de lettres, une des matières, explique Moghouchkov, où l'on transmet la passion, l'amour, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits mécréants. Dominique Bernard est désigné sous la lettre B sur la feuille à carreaux retrouvée dans le sac à dos du terroriste. Moghouchkov y a rédigé par avance, à la main, le programme de son périple meurtrier, avec l'heure des sonneries du lycée Gambetta jusqu'à celle de la sortie du professeur de français vers la cantine. Un document qui est le fruit de repérage. Les vendredis précédents, Moghouchkov le reconnaît. Ce qu'il y avait dans mes mains, les couteaux, la cible, c'était planifié. Lâche-t-il devant la juge.
Un attentat planifié, dit-il encore, avant les attaques du Hamas en Israël. L'assaillant raconte aussi sa radicalisation.
Ou comment lui, qui adolescent allait voir les Avengers au cinéma, a connu le choc de voir son grand frère arrêté, puis incarcéré pour un projet terroriste. Et puis, c'est devenu normal, dit Moghouchkov à la juge. Ses relations avec sa mère, qui, dit-il, ne voulait pas forcément mettre le voile d'y faire la prière, se sont tendues. Rupture aussi avec sa grande sœur, qui l'accuse d'aimer la musique et d'aimer le système de liberté individuelle en France qui, selon lui, permet de se soustraire aux lois musulmanes. Il dit avoir lu quotidiennement le Coran dans les 3 mois qui ont précédé son acte, un cheminement individuel. Il met notamment hors de cause son petit frère, lui aussi mis en examen. Personne n'était au courant de ce projet, assure l'assaillant.
Pierre de Cossette pour ses explications. Je rappelle aussi qu'un cousin du terroriste est mis en examen dans ce dossier. Lui soupçonnait d'avoir été informé de son projet meurtrier sans l'en empêcher, ce qu'il conteste. La colère contre l'insécurité devrait encore s'intensifier aujourd'hui à Mayotte. Une grande manifestation est prévue à Mamoudzou, le chef-lieu du département, à l'appel des forces vives. Ce mouvement à l'origine de blocages routiers permanents maintenant depuis une quinzaine de jours dans le département français de l'océan Indien.
7h33, les soldes d'hiver s'achèvent ce soir, Alexis, et c'est encore un mauvais cru.
Et le même constat revient désormais quand les promotions prennent fin, concurrencées par Internet et les ventes privées. Les soldes en magasin ne font plus recette. Les commerçants parlent déjà d'un chiffre d'affaires en recul de 6% sur un an dans un secteur de l'habillement en grande souffrance plus généralement. De nombreuses enseignes bien connues des centres-villes sont en difficulté. Après Camailleux, San Marina, Koukaï ou encore Minelli, c'est le groupe IKKS qui à son tour envisage de fermer des magasins et de réduire ses effectifs. 200 postes concernés sur 1300 en France. Une fois de plus, Agnès Soubiran, c'est le milieu de gamme qui est plus particulièrement touché.
Les grands noms du luxe français continuent d'enchaîner les succès. Dior, Hermès, Chanel ne connaissent pas la crise. À l'autre bout de la chaîne, Kiabi était jusqu'ici montré en exemple avec une progression de 10% entre 2021 et 2022, grâce notamment à la seconde main, tendance que l'enseigne qui appartient au groupe Muliez a su saisir très vite. Mais là également, le rythme ralentit avec une progression limitée à 1% en 2023. Certaines marques très pointues sur un créneau très spécifique, comme la mode responsable et éthique, patinent Balzac Paris, Marie, Opale sont en progression mais sur des volumes très restreints. Des enseignes iconiques comme Petit Bateau s'accrochent, mais celles qui souffrent le plus se situent dans le milieu de gamme, des marques qui n'ont pas su se renouveler alors qu'arrivaient sur le marché les géants Zara et H&M, puis plus récemment Primark et les plateformes en ligne comme Shein. Le mouvement des gilets jaunes, le Covid, les transports chers et ralentis, l'inflation alimentaire, les difficultés se sont accumulées et pour IKKS, le coup de grâce semble avoir été la guerre en Ukraine, pays où la marque était très bien implantée.
Eux sortent d'un mouvement massif d'une dizaine de jours. En bloquant les routes, les agriculteurs français ont notamment obtenu du gouvernement une avance sur le remboursement de leurs frais énergétiques, notamment les taxes sur le gasoil non routier. La mesure s'applique dès ce mois-ci. Le guichet est déjà ouvert sur Internet. Auparavant, ce remboursement intervenait bien plus tard dans l'année qui suivait la dépense. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour les premiers concernés? Pierre Pilet est retourné voir un céréalier dans le sud de l'Essonne.
Blé, orge, colza, tournesol, Alexandre Nioche possède 250 hectares de terre et s'apprête à demander l'avance sur le remboursement du GNR, le gazole non routier.
Ça va faire une avance de trésorerie, c'est bien.
Car avec une moissonneuse-batteuse et une dizaine de tracteurs, dont celui-ci garé dans sa cour, le GNR est essentiel pour cet exploitant.
Là, vous avez un tracteur qui fait 150 chevaux. Une machine comme celle-là, en termes de GNR, elle a un réservoir qui fait un peu plus de 300 litres. Si je fais du labour, il va en consommer un réservoir chaque jour.
Ces engins agricoles consomment donc plusieurs dizaines de milliers de litres à l'année.
Et en tout, moi, ça fait 35 000 litres par an à peu près, en grosse moyenne. Ça dépend les années, mais globalement, c'est à peu près ça.
Soit plus de 35 000 euros l'an dernier. Alors Alexandre Nioche calcule l'avance de trésorerie qu'il pourrait obtenir.
Et si on fait les comptes, ça va faire à peu près 2500 euros. Sachant que moi, sur une exploitation comme la mienne, j'ai à peu près 300 000 euros de charges. Donc 2500 euros, ça ne représente pas plus de 1% de l'ensemble de mes charges. Donc c'est pas ça qui change fondamentalement les choses.
Cette avance est versée sous 15 jours, une fois la demande effectuée, d'après le ministère de l'Économie et des Finances. Elle représente 200 millions d'euros, selon Bercy.
Et concernant les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs, le ministre de l'Économie dit avoir identifié 124 contrats qui ne respectent pas la loi Egalim, soit 12% du total après les premiers contrôles de ces services. Les syndicats enseignants non plus ne veulent pas relâcher la pression. Trois d'entre eux appellent à une nouvelle grève aujourd'hui, la deuxième en moins d'une semaine, toujours pour les salaires et contre les groupes de niveau au collège. Dans leur collimateur aussi, Amélie Oudéa-Castéra, leur ministre, toujours fragilisée alors qu'on attend la suite et la fin du remaniement, peut-être dès aujourd'hui. François Bayrou, relaxé hier par la justice, pourrait-il en profiter pour faire son entrée au gouvernement? Par principe, je n'écarte jamais rien, répond le patron du Modem. Vous l'entendrez dans le journal de 8h. Et il y en a une qui se réjouit aussi de la relaxe de François Bayrou, c'est Marine Le Pen. Très contente, dit-elle sur TF1, que justice ait été rendue, même si c'est un adversaire politique. La présidente du groupe RN à l'Assemblée sera, elle aussi, jugée cet automne dans une affaire d'assistant parlementaires européens. À Bruxelles et Strasbourg, justement, le Rassemblement national est allié avec l'AFD, le parti d'extrême droite allemand. Mais les relations se tendent ces derniers temps, depuis en particulier la révélation outre-Rhin d'un plan secret de remigration auquel ont participé trois responsables de l'AFD. Élodie Forêt.
Main dans la main au Parlement européen, le RN et l'AFD se regardent pourtant depuis longtemps de travers. Le parti allemand critique régulièrement l'étatisme du parti lepéniste. Eux sont francophobes, réplique un proche de Marine Le Pen. Mais jusqu'ici, les deux mouvements avaient en public minimisé leurs différences jusqu'au vœu à la presse de Marine Le Pen en janvier. Encouragée par son entourage, elle condamne le plan de remigration et s'interroge pour la première fois sur un éventuel divorce. Depuis, les relations sont glaciales. Ils ne comprennent pas pourquoi on fait le jeu de nos adversaires, déplore un eurodéputé. Car pour l'AFD, la séquence est mauvaise. Ce week-end encore, une manifestation à Berlin. Il y a une semaine, un revers électoral. Mais la mésentente pourrait-elle aller jusqu'à la rupture, quitte à ce que le groupe explose? Au RN, la question divise. Les ponts ne sont pas coupés, a tempéré Jordan Bardella dimanche sur France 3, semblant laisser à son encombrant allié le bénéfice du doute.
Au Sénégal, sous tension, le Parlement entérine le report de la présidentielle, mais au prix de débats violents hier soir. Les gendarmes ont même fait irruption dans l'hémicycle avant le vote pour évacuer tuer de force les députés d'opposition. Le scrutin prévu normalement dans 15 jours aura finalement lieu le 15 décembre. D'ici là, la loi votée hier prévoit le maintien en poste de l'actuel chef de l'État, Macky Sall. Joe Biden lui souhaite du courage. Emmanuel Macron lui adresse ses amitiés. Les marques de soutien arrivent d'un peu partout après l'annonce du cancer du roi Charles III. Buckingham l'a révélé dans la soirée sans dire de quel cancer il s'agissait précisément. Les médecins du souverain britannique lui conseillent d'alléger ses activités publiques. Son épouse Camilla et surtout son fils William le remplaceront durant la durée de son traitement.
Il est 7h39 en Égypte, Alexis. La rénovation des pyramides ne fait pas l'unanimité.
Oui, je vous emmène ce matin, Nicolas, au pied des pyramides de Gizeh, où fin janvier, le patron des antiquités égyptiennes annonçait un grand chantier, le projet du siècle, disait-il alors, pour rénover l'une d'entre elles, Mykérinos. Réaction scandalisée des égyptologues dans la foulée. Alors les autorités font machine arrière et suspendent les travaux en attendant l'avis des experts. Mais d'où vient la polémique ? Léonie Lebrun a enquêté sur place.
Admirer les grandes pyramides de Gizeh, une visite de routine pour Ashraf, chauffeur de tourisme au Caire.
Je suis venu aux pyramides plus de 700 fois. Là, c'est Khéops et Khéphren, plus grande que Mykérinos.
Mykérinos, la plus petite des pyramides, mesure tout de même 60 mètres de haut et le gouvernement égyptien envisage sa rénovation.
Ils veulent recouvrir la petite Mykérinos de granit comme il y a des milliers d'années.
L'idée du ministère des Antiquités, récupérer les imposants blocs de granit qui sont au pied de la pyramide et les hisser sur le monument. Sur place, les avis des touristes divergent.
Si c'est pour les remettre en place, je suis d'accord.
On pourrait aussi la laisser comme ça. J'aime bien comme elle est conservée.
Le projet, qui est encore à l'étude selon le gouvernement, fait bondir certains spécialistes. Parmi eux, l'égyptologue Monica Anna.
N'importe quelle intervention qui vise à terminer le travail des anciens égyptiens est un gros problème pour la pyramide. Ça met en péril son authenticité.
Des risques que l'État égyptien promet donc d'évaluer avant d'envisager la transformation de son joyau antique qui attire 14 millions de visiteurs chaque année. Le Caire, Léonie Lebrun pour France Inter.
Et l'Antiquité, restons-y, car l'intelligence artificielle nous permet désormais d'en décoder les mystères. Trois chercheurs viennent de remporter un prix pour avoir réussi à lire quelques phrases d'un manuscrit vieux de 2000 ans et très endommagé par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. L'IA leur a permis de distinguer en fait l'encre du papyrus et donc de déchiffrer des caractères de grec ancien. Ils en sont à 5% du document. Le philosophe épicurien Philodémus en serait l'auteur. Et alors, de quoi ça parle ? Eh bien de nourriture, de musique, et de comment profiter des plaisirs de la vie.
Magnifique, merci Alexis Morel. À suivre, Yaël Gauze et Dominique.